Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions Bragelonne et Conan Property International, Conan l'intégrale, volume 5. Interprété par Frédéric Knepp. Introduction. Ce troisième et dernier volume de l'intégrale Conan est un événement à plus d'un titre. Pour la première fois en France, toutes les nouvelles du Cimmérien, écrites par Robert E. Howard, et uniquement par lui, sont rassemblées dans une même collection. Il aura donc fallu attendre 72 ans aux États-Unis et 76 en France pour qu'enfin paraisse une édition digne de ce nom d'une des œuvres fondatrices de la fantaisie. C'est aussi la première fois que ces nouvelles sont publiées, non en fonction de la biographie du personnage, mais dans l'ordre dans lequel Howard composa ses récits, comme cela était son intention. On saute d'un épisode à un autre dans le désordre le plus total. L'aventurier de base qui vous raconte les épisodes tumultueux de sa carrière le fait rarement en suivant un ordre chronologique établi, mais saute d'un épisode à un autre, d'une époque à une autre, racontant les événements comme ils lui viennent à l'esprit. Auparavant, toute conclusion que l'on pouvait tirer sur la série était faussée par une présentation pseudo-biographique qui occultait l'évolution de Howard en tant qu'auteur pour mettre en avant la carrière de Conan. Les nombreuses réécritures, le maraudeur noir qui paraît ici pour la première fois dans sa forme originelle et non charcutée, n'a pas grand-chose à voir avec le texte de la précédente édition française, par exemple. Les ajouts de nouvelles, qui n'étaient pas de Howard, mais étaient pourtant présentés comme des collaborations. Les paragraphes pseudo-biographiques insérés en tête de chaque récit, tout concourait à vouloir présenter la série, non comme une suite de récits déconnectés tirés de la vie d'un aventurier moyen, comme le souhaitait Howard, mais comme une saga unifiée, comportant un début, un milieu et une fin clairement organisées. La série y était transformée en une sorte de quête initiatique, dans laquelle chaque nouvelle ne représentait en fin de compte qu'une marche de plus sur l'escalier qui mènera Conan de voleur sans le sou, dans la tour de l'éléphant, à puissant monarque d'un empire civilisé dans l'heure du dragon. La vie insouciante et aventureuse de Conan se trouvait transformée en plan de carrière. Or, ce qui rend les nouvelles de Conan si intéressantes et si différentes, cet intense sentiment de liberté qu'elles dégagent, c'est justement la totale indépendance de chaque histoire de celle qui précède et de celle qui suit. Cet élément capital de la série, artificiellement évacué, la vie haute en couleur du Cimmérien, se transformait pour ainsi dire en destinée manifeste. Et il devenait dès lors très facile de ne rien voir d'autre en Conan qu'un surhomme s'élevant de sa condition première, pauvre et voleur, pour devenir roi et donc bien évidemment riche et puissant, à la force de son épée, en une consternante illustration du Struggle for Life, la lutte pour la vie, chère au modèle américain. Il ne s'agit pas ici de nier le fait que Conan devienne roi d'Aquilonie. Il est roi dès la première nouvelle de la série. Mais il est impossible de déceler dans les récits les traces d'un plan méthodique du Cimmérien pour devenir roi un jour. Dans « Au-delà de la rivière Noire », Conan fait ce commentaire. « J'ai été capitaine de mercenaires, corsaire, cosaque, vagabond sans le sou, général. Diable, j'ai tout été dans ma vie excepté roi, et je le deviendrai peut-être un jour avant de mourir. » Cette idée fantasque lui plut, et il eut un sourire féroce. Il est un peu plus précis, dans Les Clous Rouges, parlant de ce qu'il a fait ou non au cours de son existence. « Je n'ai jamais été roi d'un royaume iborien, mais même ça, il m'est arrivé de rêver le devenir. Je le serai peut-être un jour, pourquoi pas ?» Conan devient roi tout simplement parce que l'occasion se présente, à un moment donné de sa vie, exactement comme il devient général des armées dans Le Colosse Noir, ou se retrouve capitaine d'un navire de pirates dans La Reine de la Côte Noire, c'est-à-dire par hasard et parce que l'occasion se présente. Il n'y a nulle trace de plan de carrière chez le Cimmérien. Quant à la conception de la royauté de Conan, elle n'est pas du genre impérialiste. C'est avant tout un roi au service de son peuple et non l'inverse. La couronne est parfois plus un poids qu'autre chose sur les épaules de Conan. Prospero, toutes ces questions gouvernementales me fatiguent plus que tous les combats auxquels j'ai pu participer. J'aimerais plutôt t'accompagner en Émédie. Il me semble qu'il y a des siècles que je n'ai pas eu un cheval entre les jambes. Mais Publius dit que les affaires intérieures requièrent ma présence, qu'il aille au diable. Je n'ai pas rêvé assez loin, Prospero. Lorsque j'ai vu le roi Numédides mort à mes pieds, et que j'ai arraché la couronne de sa tête ensanglantée pour la poser sur la mienne, j'ai atteint la limite ultime de mes rêves. Je m'étais préparé à prendre la couronne, pas à la conserver. Au bon vieux temps de ma liberté, tout ce que je voulais, c'était une épée acérée et la voix libre pour aller frapper mes ennemis. Aujourd'hui, toutes les voies sont détournées et mon épée ne fait que rouiller. Lorsque ses partisans lui suggèrent d'envahir un autre pays et d'en prendre le contrôle, puisqu'il s'est retrouvé dépossédé du trône d'Aquilonie, la réponse de Conan est sans équivoque. Que d'autres rêvent d'empire. Je ne souhaite que garder ce qui est à moi. Je n'ai aucune envie de diriger un empire soudé par le feu et le sang. C'est une chose que de s'emparer d'un trône avec l'aide de ses sujets et de les diriger avec leur consentement. C'en est une autre de soumettre un royaume étranger et de le diriger par la peur. Je ne souhaite pas devenir un autre Valérius. Non, Trocero. Je régnerai sur toute l'Aquilonie et sur elle seule, ou je ne régnerai sur rien. Nous sommes ici très loin de la perception de Conan que peut avoir la majorité des gens. Celle d'une brute épaisse et quasi illettrée, passant son temps à tuer et violer, vêtue éternellement d'un slip de fourrure. Les histoires dans lesquelles Conan est roi, les dernières de la série sur un plan biographique, ne peuvent donc pas être considérées comme le summum d'une saga ayant lentement amené le Cimmérien vers son rêve de devenir le plus puissant monarque de l'ère iborienne. Ces textes sont en outre parmi les plus anciens de la série. Le phénix sur l'épée et la citadelle écarlate datent des premières semaines de la création du personnage. Et le roman L'heure du dragon est, dans une large mesure, une cannibalisation de récits antérieurs. Toutes les nouvelles du présent recueil furent composées après L'heure du dragon. C'est par conséquent dans celle-ci que nous trouverons la conclusion de la série, les derniers mots de Howard sur ce personnage qu'il accapara pendant 4 ans et qui devait lui assurer une renommée parfois encombrante. Ces nouvelles ne sont en rien une quelconque conclusion biographique à la vie de Conan. Howard lui-même déclarait ne rien connaître de ce que seraient les dernières années de vie de son personnage. Ainsi, peu de temps avant sa mort, il répondait à un fan à ce sujet. Quant au destin final de Conan, franchement, je suis incapable de le prédire. Elles ne sont donc que la conclusion littéraire de la série. Les Clous Rouges fut achevé en juillet 1935, 11 mois avant le suicide de Howard. Et rien ne nous permet de supposer que Howard ait eu l'intention de retourner au personnage de Conan après ce texte. L'incapacité chronique de Weird Tales à payer Howard en temps et en heure a certainement joué un rôle non négligeable dans cette décision. Et on pourrait même supposer que ce sont les circonstances qui ont contraint le Texan à abandonner la série, bien plus qu'une réelle lassitude du personnage. Ce que tendrait à prouver le fait que Howard n'ait envoyé qu'une seule histoire à Weird Tales dans la dernière année de sa vie. Mais à partir de 1934, le Texan commençait à s'éloigner de la fantaisie, étant de plus en plus intéressé par l'histoire et les légendes de sa région, au sens large du terme, c'est-à-dire le sud-ouest américain, et tout le potentiel littéraire qu'elle recélait. Cette passion grandissante transparaît d'ailleurs très nettement dans les dernières nouvelles de Conan. Pour la première fois de sa vie, Howard s'intéressait à un sujet qui lui était proche, tant géographiquement qu'historiquement. Sa connaissance de la civilisation celtique, qui transparaît dans les premières nouvelles de Conan, n'était qu'indirecte, nourrie uniquement de lecture. Dans les toutes dernières nouvelles de Conan, Howard continue à exploiter son thème de prédilection, l'opposition entre barbarie et civilisation, mais pour la première fois, il est à même d'apporter plus de conviction, de vécu et de connaissances réelles de son sujet. 3 des nouvelles au sommaire de ce livre font partie des meilleures nouvelles de la série. Au-delà de la rivière noire, les clous rouges et le maraudeur noir.